La terre, elle brille, en fait. Elle est d'un bleu brillant, elle luit.
Houston, we have a problem.
It's one small step for man. One giant leap for mankind.
L'histoire de l'espace.
Puis la Terre, c'est immense, on est vraiment tout petit.
En visitant des planètes, nous sommes de nouveau Christophe Colomb, qui découvrons des terres nouvelles, qui jusqu'à présent n'étaient que les petits points de lumière dans le ciel, d'une part. Et d'autre part, nous plaçons des engins qui reçoivent les lumières X, gamma, infrarouge, ultraviolet, de toutes les longueurs d'onde. Et ces lumières de toutes les longueurs d'onde nous apportent toute l'information des astres, information que jusqu'à présent nous n'avions pas.
Creating a self-sustaining civilization on Mars. Forward to the greatest adventure ever.
Voilà, cette histoire de se mettre dans l'ambiance. Et juste avant de commencer la chronique, bien sûr, bah Michel, je vais vous souhaiter la bienvenue. Hein. Bonjour et bienvenue. Voilà, le micro va s'allumer, mais rassurez-vous, tout va bien. Allez, quand vous voulez. Voilà, parfait, c'est allumé. Bonjour Michel.
Bonjour Joël.
Voilà, c'est histoire qu'on se fasse un petit salut amical. Vous allez bien sûr nous présenter votre 133e chronique astro. Vous allez commencer par l'actu. Alors là, je me suis repris plusieurs fois pour attaquer la chronique. Voilà, j'espère que je vais bien prononcer. Parce qu'on va parler vous allez parler d'abord d'une comète qui fait pchit. J'espère que je vais bien prononcer.
Ça va. La dernière fois, le 1er avril, j'avais indiqué le passage au périhélie, c'est-à-dire au plus près du Soleil de son orbite, de la première comète découverte cette année, C2026-A1 MAPS. Mais j'avais bien précisé qu'elle pouvait être détruite à cette occasion, car elle faisait partie du groupe de Crutz, un ensemble de comètes qui semble provenir d'un même noyau disloqué il y a plusieurs siècles, selon la théorie émise par cet astronome allemand à la fin du 19e. En effet, elles ont toutes la fâcheuse tendance à frôler le Soleil de trop près et ne pas survivre à ce passage, comme le noyau initial qui aurait été brisé à cette occasion. Or, celle-ci passait vraiment très près de notre étoile, à seulement 160 000 km, soit moins de la moitié de la distance Terre-Lune, ou environ un dixième du diamètre du Soleil. Et ce qui devait arriver s'est bien produit, la comète a été détruite par la température et les forces de marée le 4 avril. On peut le voir sur les images fournies par le télescope solaire SOHO, car la comète passe dans le champ de ses instruments destinés à surveiller la couronne solaire. On y voit la comète, bien reconnaissable à sa queue, s'approcher du Soleil, disparaître derrière le cache permettant de masquer le Soleil trop éblouissant, un peu comme une éclipse artificielle, mais elle n'en ressort jamais, et à la place, on peut voir une sorte de bouffée de débris sortir de l'autre côté, comme les résidus d'une explosion spatiale. On peut notamment le voir sur une vidéo composée avec ces images par un astronome amateur, celui qui est en train de parler au micro de Haut de Radio, publié le 7 avril sur le site en ligne du magazine Ciel et Espace, la revue de l'AFA, Association Française d'Astronomie.
Alors l'arroseur arrosé, ou plutôt le photo... Graffieur. Fieur, voilà, j'ai du mal. Je me demandais si c'était une erreur photographiée. Pardon, Michel.
Voilà. En effet, comme je viens d'inciter nos auditeurs à aller voir ma vidéo de la comète sur le site de Ciel et Espace, ils pourront en profiter pour y voir une photo insolite publiée hier. Il s'agit du fameux télescope spatial Hubble en train de survoler la Terre à 475 km d'altitude. D'habitude, c'est lui qui nous envoie de belles images des objets cosmiques, mais cette fois, il était la cible d'une image prise par un des 6 satellites WorldView Legion de la société privée américaine Vantar, alors qu'il passait environ 60 km au-dessus de Hubble. Ces satellites sont destinés à l'observation de la Terre, surtout à des fins militaires. L'occasion de rappeler que, à nos auditeurs que si on met à part l'énorme constellation de satellites de communication Starlink de SpaceX, environ la moitié des autres satellites en orbite autour de la Terre sont à vocation militaire. Pour ce qui concerne Hubble, cette photo prise le 23 avril dernier vient fêter son 36e anniversaire, car il a été lancé le 24 avril 1990. Avec son miroir de 2,40 m de diamètre, Il nous a fourni des images du cosmos remarquables et continue de le faire, certaines ayant profondément fait progresser notre connaissance de l'univers, notamment sa taille immense avec les centaines de milliards de galaxies qui nous entourent, ou les mécanismes de formation des étoiles et des planètes en nous permettant de zoomer sur des régions où ces processus sont actuellement à l'œuvre. Je profite de l'occasion pour évoquer le futur des télescopes spatiaux. Lors de son lancement en décembre 2021, puis sa mise en service l'été suivant, les médias ont beaucoup parlé du JWST, le James Webb Space Telescope, qui nous donne des images encore plus précises avec son miroir de 6,50 m, mais il n'est pas exactement de la même catégorie, car il n'observe que dans l'infrarouge, une partie du spectre lumineux invisible à nos yeux, mais permettant de mettre en évidence d'autres phénomènes, comme la formation des toutes premières étoiles et galaxies de l'univers, ou la composition de l'atmosphère des exoplanètes, les planètes orbitant autour d'autres étoiles que le Soleil. Dans un proche futur, la Chine doit lancer début 2027 son propre télescope spatial, baptisé Xuntian, ce qui voudrait dire croiseur des cieux, qui est assez semblable à Hubble avec un miroir primaire de 2 mètres pour observer dans le domaine visible, donc la lumière visible à nos yeux, et le proche ultraviolet. Mais sa conception optique est très différente pour ouvrir un champ beaucoup plus large, sa caméra principale pouvant fournir des images environ 300 fois plus grandes que celles de Hubble. Il aura aussi la particularité de pouvoir venir s'amarrer à la station spatiale chinoise, CSS, ou Tiangong, pour des opérations de maintenance. Je rappelle à nos auditeurs que depuis le retrait des navettes spatiales américaines en 2011, nous n'avons plus la capacité de propulser des astronautes jusqu'à Hubble pour le réparer, comme cela avait été fait 5 fois entre 1993 et 2007. Côté américain, le lancement d'un nouveau télescope est également prévu en septembre avec le Nancy Grace Roman, un nom qui rend hommage à l'astronome américaine qui a été à l'origine du projet Hubble à la NASA. Il aura un miroir à peu près de la même taille, environ 2,40 m, mais comme son homologue chinois, un champ dans les 200 fois plus large. Pour donner une idée de la comparaison, cela voudrait dire qu'en environ un mois, il fournira autant d'images du cosmos que Hubble le ferait en 100 ans. Contrairement à Hubble et Xuntian, en orbite basse autour de la Terre, le Roman ira rejoindre le JWST au point de Lagrange L2 à environ 1 500 000 km de la Terre, à l'opposé du Soleil, une position fixe où il ne subira pas les alternances jour-nuit qui compliquent la stabilisation thermique des observatoires spatiaux. Avec son très large champ, une de ses missions sera de cartographier précisément des milliards de galaxies, comme le fait déjà le télescope européen Euclide depuis 2023, mais avec un miroir plus petit de 1,20 m. Par ailleurs, avec ses images très précises, le Roman devrait être capable de découvrir de nouvelles exoplanètes par l'effet appelé micro-lentille gravitationnelle. On estime qu'il pourrait en trouver dans les 300 000, alors qu'on n'en connaît actuellement qu'environ 8 000.
Et un lancement raté pour Jeff Bezos.
Alors c'est le 19 avril dernier qu'était lancée la grande fusée New Glenn de la société Blue Origin pour la troisième fois afin de mettre en orbite un satellite Bluebird de 6 tonnes. Malheureusement, tout ne s'est pas bien passé. Alors que tout avait bien commencé avec la récupération en douceur du premier étage, qui d'ailleurs avait déjà été utilisé, le satellite a été placé sur une orbite trop basse et il a donc dû être désorbité, c'est-à-dire envoyé plonger dans l'atmosphère pour y être détruit. C'est un revers pour la société qui avait parfaitement réussi le précédent lancement, le 13 novembre dernier, envoyant vers Mars une sonde de la NASA de 1 tonne. Cet échec vient encore plomber, si je peux dire, le calendrier d'Artemis, car c'est ce lanceur qui doit propulser en principe cette année l'atterrisseur cargo de la société Blue Moon d'environ 21 tonnes pour se poser en douceur près du pôle sud lunaire, puis en 2027 sa version habitable. C'est ce HLS, pour Human Landing System, que le nouvel administrateur de la NASA a remis en concurrence avec le Starship de SpaceX, dont la mise au point est bien plus longue que prévu. D'ailleurs, son prochain essai était attendu en avril, mais il a été repoussé en mai, sans date précise pour le moment. SpaceX a également subi un raté hier, car son autre lanceur lourd, Falcon Heavy, comparable au New Glenn en termes de puissance, devait décoller entre 16h20 et 17h45, heure française, pour envoyer un satellite de télécommunication de 6 tonnes jusqu'à l'orbite géostationnaire, à 36 000 km. Mais le compte à rebours a été interrompu un quart d'heure avant le tir en raison d'une mauvaise météo sur la Floride. Un autre essai pourrait avoir lieu cet après-midi. C'est ce lanceur qui doit envoyer le rover européen Rosalind Franklin vers Mars en 2028.
Et une nouvelle théorie pour les météorites primitives.
Oui, alors j'ai commencé ces actualités avec une comète et je la finis avec des météorites, ces autres petits corps qui circulent dans l'espace. J'en profite pour rappeler à nos auditeurs qu'il s'agit d'objets très différents, même si sur les anciennes gravures ou les photos d'aujourd'hui, elles peuvent se ressembler par leur forme très allongée avec une sorte de traînée qui brille dans le ciel au milieu des étoiles. Les comètes sont des corps assez gros, typiquement de quelques kilomètres, qui circulent dans le système solaire, un peu comme les planètes, et forment une queue de gaz et de poussière suite à le réchauffement progressif en s'approchant du Soleil. Quand on les voit dans le ciel, elles semblent fixes par rapport aux étoiles, bien que ce déplacement a de très grandes vitesses en réalité, mais très loin de nous, souvent aussi distantes que le Soleil ou des planètes. À l'inverse, les météorites sont des petits corps, souvent de quelques centimètres, rarement plus grosses que quelques mètres, qui traversent notre atmosphère à grande vitesse, au point qu'on a souvent peu de temps pour les apercevoir, comme un bref trait de lumière. Contrairement aux comètes qui sont éclairées par le Soleil dans l'espace, les météorites ou bolides, comme on les appelle dans le ciel, produisent leur lumière par le réchauffement intense en traversant l'air à grande vitesse, comme les étoiles filantes qui sont encore plus petites, au point de totalement se consumer dans le ciel sans jamais atteindre le sol. On estime que pour qu'un minuscule débris nous atteigne, à peine un grain de sable, il faut que la météorite ait au minimum la taille d'une balle de ping-pong quand elle pénètre dans la haute atmosphère. D'ailleurs, leur nom nous indique bien qu'il s'agit d'un phénomène atmosphérique, car météorite vient du grec météoros, qui signifie plus ou moins « en haut », et qui désignait tous les phénomènes ayant lieu dans le ciel, et qu'on retrouve aussi dans météorologie. À l'exception de quelques rares météorites dont la composition inhabituelle a pu démontrer qu'elles provenaient de la Lune ou de Mars, la plupart sont des fragments arrachés à des astéroïdes lors de collisions. Elles sont donc très anciennes, remontant au début de la formation du système solaire et constituent des sortes de fossiles de cette époque, puisque figées dans le vide et le froid spatial, elles n'ont pas connu les évolutions géologiques qui se sont déroulées sur les planètes et leurs satellites, comme par exemple sur Terre, le volcanisme et la tectonique des plaques, apportant à sa surface des roches beaucoup plus récentes et transformées. Leur étude est donc fondamentale pour connaître l'environnement dans lequel se sont formées les planètes, il y a environ 4,5 milliards d'années. C'est dans ce contexte qu'il faut placer l'article publié la semaine dernière, le 22 avril, dans la prestigieuse revue Nature, par une équipe internationale pilotée par le planétologue Sébastien Charnoz de l'IPGP, l'Institut de physique du globe de Paris, et qui peut révolutionner le modèle de formation des corps solides, comme les astéroïdes puis les planètes, au sein du nuage de gaz et de poussière qui entourait primitivement le jeune Soleil.
Qu'y a-t-il de nouveau dans cette étude, Michel ?
Alors, elle porte sur les conditions de formation des minéraux contenus par les météorites. Il existe plusieurs types de météorites selon leur composition, mais le plus courant, à plus de 80%, sont des chondrites, qu'on appelle ainsi car elles contiennent des chondres, des sortes de petites billes de quelques millimètres renfermant des minéraux cristallisés dont le mélange est impossible à réaliser sur Terre ou tout autre corps très massif, mais ne peut être obtenu qu'en apesanteur, ce qui témoigne de leur origine spatiale. On étudie ces chondres depuis que les cosmochimistes disposent de microscopes assez puissants et de moyens d'analyse chimique de tout petits fragments. Et cela avait conduit à un consensus sur le fait qu'ils avaient dû se former très lentement, typiquement des durées de l'ordre de milliers d'années, à l'occasion du refroidissement très progressif du nuage de gaz chaud qui environnait le Soleil à sa naissance. Mais cette approche dite « à l'équilibre » bute sur une difficulté, car il existe trois types de chondres ayant des compositions différentes. Et on admettait généralement que cela provenait de formations dans des régions différentes du jeune système solaire, plus ou moins chaudes selon la distance au Soleil, comme par exemple la zone plus lointaine, riche en glace, où se seraient formés Jupiter et les planètes au-delà, qui expliquerait une plus grande proportion d'eau dans les minéraux formés à cet endroit. L'équipe de Sébastien Charnoz a voulu tester par simulation une hypothèse différente, avec un refroidissement beaucoup plus brusque, de l'ordre de quelques jours, pour passer d'un gaz à près de 2000 degrés au moins 140 de l'espace interplanétaire. Il pensait que cela mettrait en évidence la formation d'une beaucoup plus grande variété de minéraux que ceux observés dans les chondres, mais curieusement, les résultats convergent vers les seuls trois types de chondres que l'on connaît. Et par exemple, La plus grande quantité d'eau proviendrait simplement d'une formation rapide à partir de roches contenant déjà de l'eau et non à grande distance du Soleil. Ainsi, cela pourrait expliquer l'origine de l'eau sur Terre, pourtant formée trop près du Soleil, dans une zone où il ne pouvait pas y avoir de glace en quantité. Difficulté qu'on contourne habituellement en estimant que l'eau aurait été apportée plus tard par des comètes et des astéroïdes. Ça suppose des conditions cataclysmiques, ces refroidissements brusques, dans le disque protoplanétaire entourant le Soleil, avec de très brusques changements de température, donc des mouvements très rapides de zones chaudes vers des zones froides. Un modèle très différent du tranquille refroidissement dans un nuage à l'équilibre de la vision actuelle. Cela reste donc à confirmer par des études complémentaires, mais si cette théorie se vérifie, elle constituerait une révolution dans notre compréhension de la formation du système solaire, et notamment de l'origine de l'eau sur Terre, donc indirectement de l'apparition de la vie sur notre planète.
Allez, vous êtes toujours à l'écoute des programmes d'Odo Radio. C'est la chronique Astro numéro 133, présentée et réalisée par Michel Favret. Et là, Michel, vous allez aborder la deuxième partie de votre chronique avec le sujet, le thème du mois, Artemis 2. Vous allez notamment parler d'Artemis 2 et Apollo 8.
Oui, dans cette chronique de fin avril, je ne pouvais pas éviter de revenir sur la mission lunaire historique Artemis 2, qui a été largement relatée par les médias au début du mois. Et comme on l'a souvent comparé à Apollo 8, presque 60 ans plus tôt, car dans les deux cas, il s'agissait d'envoyer un équipage orbité autour de la Lune, j'ai pensé qu'il serait intéressant de comparer les deux en faisant un parallèle, qui n'est pas forcément à l'avantage d'Artemis, car personnellement, je trouve que la NASA a un peu exagéré dans sa communication autour de cette mission, qui était avant tout un test grandeur nature de la capsule Orion, ayant eu très peu de retombées dans notre connaissance de la Lune, contrairement à ce qui a largement été répété. Apollo 8 a été lancé le 21 décembre 1968 depuis le Centre spatial Kennedy en Floride, plus précisément le pas de tir 39B des missions Apollo, comme Artemis 2, plus de 57 ans plus tard, le 1er avril 2026. En France, c'était le 2 avril à 0h35 en raison du décalage horaire. La capsule Apollo était propulsée par une fusée Saturn V de 110 mètres de haut et environ 3000 tonnes au décollage, ce qui est assez semblable au SLS, Space Launch System, d'Artemis. Pour le SLS, c'était son deuxième tir, après celui de novembre 2022, 3 ans et demi auparavant, qui avait propulsé Artemis 1 faire une orbite lunaire, mais sans équipage. Pour la Saturn V, c'était son troisième tir, après 2 essais sans équipage, Apollo 4 en novembre 1967 et Apollo 6 en avril 1968. Soit grosso modo, dans l'année précédente, Apollo 8, donc un rythme beaucoup plus rapide imposé par la course à la Lune qui confrontait les USA et l'URSS à cette époque de la guerre froide, chacun des deux blocs voulant démontrer sa supériorité technique au monde entier. Même si leurs caractéristiques sont assez semblables, les deux lanceurs lourds sont assez différents dans leur conception. Comme on était au début de l'ère spatiale, Saturn V était une toute nouvelle fusée dont les études avaient commencé environ 10 ans plus tôt, sous l'impulsion du département de la défense des USA, qui souhaitait disposer d'un engin capable de mettre en orbite basse des satellites de reconnaissance ou télécommunication jusqu'à 18 tonnes. Il ne faut pas oublier que l'industrie spatiale, dont les missions civiles sont la vitrine pour le public, est aussi dédiée au domaine militaire, avec des fusées souvent dérivées de missiles balistiques développés pour la guerre nucléaire. Et Werner von Braun, l'ingénieur décisif du programme spatial américain, notamment d'Apollo, était le concepteur des missiles nazis V2, heureusement mis au point trop tard pour constituer un tournant décisif de la Deuxième Guerre mondiale. Avant la Saturn V, des prototypes plus petits avaient été expérimentés, notamment Saturn 1 entre 1961 et 1966, pour mettre en orbite des satellites scientifiques, puis sa version 1B plus puissante qui a participé au programme Apollo, avec Apollo 5 en janvier 1968, sans équipage, mais qui transportait pour la première fois le module lunaire, puis Apollo 7 en novembre 1968, le premier vol habité du programme Apollo, avec 3 astronautes à bord. Mais ces petites fusées, si j'ose dire, n'avaient pas grand-chose à voir avec l'énorme Saturn V, donc rien que le premier étage était plus haut qu'elle, et plus gros, 10 mètres de diamètre contre 6,50 mètres, et qui était doté en plus d'un troisième étage au lieu de deux. Pour le SLS, qui arrive après une longue histoire de la conquête spatiale, la situation est bien différente, car il bénéficie des expériences antérieures, et comme la NASA préfère réutiliser des solutions qui ont fait leurs preuves plutôt que d'en concevoir des nouvelles, Il est le résultat du recyclage de vieux matériel, si je caricature un peu. Son premier étage est constitué du même réservoir que l'on voyait sous le ventre des navettes spatiales au décollage, et il est équipé des mêmes moteurs que la navette, certains ayant même déjà été utilisés lors des missions navettes, les 4 d'Artemis 1 et 3 sur les 4 d'Artemis 2. Du matériel d'occasion, si j'ose dire. De même, les deux boosters à poudre installés de chaque côté du premier étage et indispensables au décollage où ils assurent environ 80% de la poussée, sont dérivés de ceux utilisés pour la navette, dans une version 20% plus puissante en les rallongeant.
Et pour la capsule transportant les astronautes?
Les deux capsules sont assez similaires avec leur forme conique, mais de taille différente. Pour Apollo, un peu moins de 4 mètres de diamètre et un espace habitable de seulement 6 mètres cubes, offrant la possibilité d'accueillir 3 astronautes, mais dans des conditions de confort très précaires. Surtout pour un voyage de plusieurs jours, ce qui n'a rien à voir avec un trajet vers l'ISS de quelques heures ou au pire 2 jours. Pour Artemis, c'est la nouvelle capsule Orion de 5 mètres de diamètre, offrant un espace de presque 9 mètres cubes, donc comme une toute petite chambre, pour accueillir 4 astronautes dans un meilleur confort et pouvant, pour gagner en espace, replier 2 des 4 sièges indispensables lors des phases de décollage et d'atterrissage, et avec une appréciable petite cuvette de WC, du moins quand elle fonctionne. En effet, les toilettes étaient en panne les premiers jours de la mission jusqu'à ce que l'ingénieure Christina Kaur les remette en service, apparemment en orientant la capsule de manière à ce que le soleil fasse fondre la glace qui obstruait leur tuyau de vidange. Mais ce que je viens de décrire, l'engin qui accueille les astronautes, n'est qu'une partie du vaisseau qui les transporte, ce qu'on appelle le module de commande. Seul élément à revenir sur Terre en traversant l'atmosphère. Mais pour tout le reste du voyage, il ne pourrait pas fonctionner s'il n'était pas couplé avec un module de service, la partie cylindrique située juste derrière la capsule, qui assure sa propulsion avec son moteur principal et fournit l'énergie, ainsi que tous les fluides utiles à la survie des astronautes, comme l'air et l'eau, et à l'inverse traite leur rejet comme le gaz carbonique produit par leur respiration. Pour Apollo, ce module de 24 tonnes, presque 4 fois la capsule de 6 tonnes et demie, produisait l'électricité avec 3 piles à combustible alimentées par des réservoirs d'oxygène, dont l'un a été à l'origine du grave accident d'Apollo 13. Pour Orion, le module de service est plus léger, avec seulement 16 tonnes, guère plus que la capsule de 11 tonnes, et son diamètre n'est que de 4,50 m, ce qui nécessite une adaptation à la capsule de 5 mètres. Il produit son énergie avec 4 panneaux solaires installés en croix, qui sont orientables pour capter au mieux les rayons du soleil. Ce module est nommé ESM, pour European Service Module, car il est fourni par l'Agence Spatiale Européenne, ESA, en échange de places réservées à des spationautes européens dans de futures missions Artemis. Un peu comme le SLS, c'est un dispositif fortement inspiré d'un précédent vaisseau, l'ATV, un cargo automatique européen de ravitaillement de l'ISS, ce qu'il a fait 5 fois entre 2008 et 2014, propulsé par la fusée Ariane 5, ce qui explique son diamètre adapté à ce lanceur. Au départ, la mission Apollo 8 était destinée à tester les manœuvres avec le module lunaire, ou LEM, en orbite terrestre. Mais comme celui-ci n'était pas prêt à temps, c'était reporté à la mission suivante, et donc Apollo 8 n'a pas emporté de LEM, seulement un boilerplate, comme on dit dans le milieu, ça veut dire une citerne. En fait, c'est un simulateur de masse identique. Et sa mission est devenue le premier trajet jusqu'à la Lune pour s'y placer en orbite. Artemis n'emporte pas de module lunaire, car ses missions sont conçues pour utiliser une sorte de navette lunaire, le HLS, Human Landing System, qui attendra les astronautes en étant déjà en orbite lunaire pour les transporter aller-retour jusqu'à la surface.
Alors, question, combien de temps passent les astronautes dans leur vaisseau pendant une mission lunaire?
Alors, pour Apollo 8, l'équipage composé du commandant Frank Borman, du pilote James Lowell et du pilote du module lunaire William Anders a décollé le 21 décembre 1968, a orbité autour de la Terre pendant 2h30 avant qu'une dernière poussée du troisième étage de la fusée Saturne V les envoie en direction de la Lune à près de 40 000 km/h. La Lune étant environ à 380 000 km, on pourrait se croire qu'il ne faut que 10 heures pour l'atteindre. Sauf que la trajectoire est purement balistique, c'est-à-dire sans aucune poussée supplémentaire. Comme un caillou que l'on lance en l'air et qui ralentit progressivement à cause de l'attraction de la Terre et finit par retomber. Mais pour Apollo, l'impulsion est si forte qu'elle amène la capsule jusqu'à un point où l'attraction de la Lune prend le relais pour continuer à les faire progresser vers elle avec une accélération constante. C'est donc en 69 heures après le lancement, soit presque 3 jours, que leur vaisseau ralentit pour se placer en orbite lunaire. Artemis 2 a suivi un processus analogue, mais comme il s'agissait de la première mission habitée d'Orion, une série de tests de manœuvrabilité ont été effectués pendant l'orbite terrestre en utilisant comme cible le dernier étage du SLS dont il s'était séparé un peu plus tôt. Dans les années 1960, les manœuvres relatives des vaisseaux, indispensables aux missions lunaires, en particulier pour connecter la capsule au LEM, avaient d'abord été testées par le programme Gemini, puis Apollo 7 pour la nouvelle capsule Apollo, à peine 2 mois avant Apollo 8. Orion ne sera donc propulsé vers la Lune que 1 jour après son lancement par le moteur principal de son module de service et mettra 5 jours pour entrer dans la zone d'attraction de la Lune. Pendant ce long trajet, l'équipage a procédé à différents tests, encore la manœuvrabilité du vaisseau en pilotage manuel et aussi la vitesse d'enfilage des combinaisons de survie qu'ils doivent revêtir en cas de dépressurisation de la cabine, les mêmes utilisées pendant les phases de décollage et d'atterrissage. Il y a eu aussi de longues périodes de retransmission vidéo en direct, et je dois dire que je les ai personnellement trouvées un peu décevantes. J'ai lu qu'Orion était équipé de pas moins de 28 caméras, intérieures et extérieures, et pourtant la plupart des images diffusées ne provenaient que d'une caméra grand angle montrant les activités de l'équipage dans la capsule, ou d'une caméra extérieure fixée sur un des panneaux solaires montrant une partie du vaisseau et son environnement spatial, la Terre ou la Lune. Le problème, c'est que quand on reste loin d'autres objets spatiaux, ces plans extérieurs sont désespérément monotones, car ils évoluent très très lentement, même si on se déplace en réalité à une vitesse vertigineuse. De plus, les vidéos réelles étaient fréquemment entrecoupées de séquences en animation de synthèse pour illustrer les manœuvres. On est bien loin de la télégénie des tests du Starship où alternent des prises de vue différentes produites par les multiples caméras qui l'équipent. À l'époque, je crois me souvenir que les images provenant d'Apollo 8 étaient plus impressionnantes, peut-être parce qu'elles étaient totalement inédites. Alors que les astronautes ne disposaient que d'une seule caméra noir et blanc de 2 kg, soit avec un objectif très grand angle permettant de les voir dans la capsule, soit avec un téléobjectif avec lequel ils essayaient tant bien que mal de montrer ce qu'ils pouvaient voir à travers les hublots, comme la Terre en train de s'éloigner ou les cratères lunaires pendant leur survol.
Car après le long trajet jusqu'à la Lune, les astronautes ont orbité autour d'elle.
Oui, enfin du moins pour Apollo 8, qui a effectué 10 orbites autour de notre satellite en environ 20 heures et à seulement 110 km d'altitude, leur permettant de voir de bien plus près les reliefs de la surface de la Lune que ce qui était possible depuis la Terre, même avec les télescopes les plus puissants, et notamment aussi ceux de la face cachée, qu'aucun homme n'avait jamais pu voir directement avant eux, mais qui avaient déjà été photographiés par des sondes automatiques, notamment la Luna 3 dès 1959. Ce passage derrière la Lune est d'ailleurs particulièrement stressant, car la Lune bloque les ondes radio et plus aucune communication n'était possible avec la Terre pendant environ 35 minutes. Pendant toute la durée de ces révolutions, ils ont filmé 210 mètres de pellicule 16 mm et pris plus de 800 photos. La plus célèbre est le fameux lever de terre, pris alors que le vaisseau sortait de son troisième passage derrière la Lune, par Anders, qui voit la magnifique boule bleue s'élever au-dessus du paysage gris et désolé de la Lune. Cette image iconique, montrant la fragilité de la petite Terre, véritable oasis de vie au milieu d'un espace noir hostile, est sans doute à l'origine de l'émergence de la conscience écologique dans les années suivantes. Il y a eu aussi les 2 retransmissions télévisées en direct, et lors de la deuxième, qui a eu lieu la veille de Noël, le commandant Bormann a lu un passage de la Genèse avant de souhaiter un joyeux Noël à tous. On estime qu'il a été suivi en direct par plus de 1 milliard de téléspectateurs dans les 64 pays où il était retransmis. Après 2 jours et demi de retour vers la Terre, Apollo 8 amerrissait dans le Pacifique après une mission d'environ 6 jours au total. Pour Artemis 2, c'est différent, car le vaisseau n'a en réalité jamais été placé en orbite lunaire. Dès son départ vers la Lune, il avait adopté une trajectoire lui faisant effectuer une grande boucle autour d'elle et le ramenant automatiquement vers la Terre sans nécessiter aucune manœuvre critique de correction. C'était un choix judicieux pour la sécurité de ce vol de test et c'était le même genre de trajectoire que celle adoptée par Apollo 13 pour pouvoir revenir sur Terre alors que la capsule avait été gravement endommagée par une explosion dans son module de service lors du trajet vers la Lune et avait perdu une grande partie de ses capacités. Lors de cette boucle autour de la Lune, l'équipage avait battu bien avant longtemps le record de distance avec la Terre à environ 400 000 km. Record battu, volontairement cette fois, par Artemis II avec dans les 6000 km de plus. Mais cette grande boucle s'est payée par un survol très lointain de la Lune, à 6500 km au minimum, donc une vision de la surface lunaire incomparablement plus lointaine que celle d'Apollo 8. C'est là que je trouve que la NASA a été un peu lourde dans sa communication. Si au sens strict leur vision aurait été unique, car personne auparavant n'avait pu avoir une vue aussi panoramique de la face cachée, il est indéniable que cela ne pouvait pas permettre de distinguer des détails pour définir de futurs sites d'alunissage possibles, ni en vision directe, ni avec des photos prises au téléobjectif. Si je peux me permettre un peu de familiarité, je dirais que la NASA nous a un peu joué du pipeau sur cet aspect scientifique de la mission. Car au-delà des missions Apollo, il y a eu des sondes lunaires automatiques qui ont pris des milliers de photos à très haute résolution des reliefs lunaires, notamment LRO, Lunar Reconnaissance Orbiter, de la NASA, survolant le sol lunaire à seulement 50 km depuis 2009 et qui a produit des clichés si fins qu'on peut distinguer les sortes de sentiers que les pas des astronautes d'Apollo ont tracés autour de leur site d'alunissage. De même pour le coucher de Terre qu'on nous a survendu, alors qu'avec la grande distance, c'est derrière un fin croissant de Lune que s'est laborieusement glissé le petit croissant de Terre. Rien à voir avec le brusque surgissement de la Terre au-dessus de l'horizon lunaire de 1968. Idem pour la soi-disant éclipse de Soleil, car avec une Lune bien plus grosse que vue de la Terre, la plus grande partie de la couronne solaire restait masquée, alors que c'est elle qui fait toute la beauté de la vision d'une éclipse totale, comme celle qui se produira le 12 août prochain en Espagne. Si je trouve que la NASA en a fait des tonnes pour nous vendre l'aspect historique d'Artemis II et de ses résultats, je reste quand même convaincu qu'elle était indispensable pour tester le vaisseau avant les prochaines missions et mesurer son impact sur les astronautes, car en s'éloignant de la Terre, ils ont été soumis à des radiations et des particules solaires bien plus intenses que ceux subis par les résidents de l'ISS, la Station Spatiale Internationale. Avec sa très longue boucle autour de la Lune, il aura fallu au total pas moins de 9 jours à la capsule Orion pour revenir à Mérir le 11 avril, près des côtes californiennes, à moins de 5 km de la position visée, et heureusement en traversant sans dommage l'atmosphère, phase critique qui était redoutée suite aux anomalies relevées sur le bouclier thermique d'Artemis 1 après son retour. Pour être honnête, j'ai vu naître à ce propos une polémique sur Internet où il est question aussi d'un bouclier ayant beaucoup souffert.
Voilà, on va vous laisser boire un petit coup, Michel, reprendre. Ouais. Voilà, c'est vrai que c'est pas évident, on est
pour
toujours en direct sur de radio. Allez-y,
pour être
Michel.
Honnête, j'ai vu naître à ce propos une polémique sur Internet où il est question aussi d'un bouclier Artemis II ayant souffert, comme semblent le montrer certaines photos de la capsule après sa récupération. Mais l'administrateur de la NASA, Jared Isaacman, a rapidement affirmé qu'il s'agissait de traces d'ablation, le processus normal de dégradation de ce dispositif pour protéger l'équipage des très hautes températures produites par le frottement sur la haute atmosphère à très grande vitesse. Dans les prochaines semaines, le bouclier sera inspecté de manière très poussée, notamment au rayon X, et on saura si l'on doit s'inquiéter ou pas pour les prochaines missions, dont Artemis 3, prévue normalement l'an prochain.
Allez, vous êtes toujours à l'écoute des programmes d'eau de radio. Voilà, c'est notre journal en ce mercredi 29 avril avec Michel Favré qui est venu présenter sa 133e chronique Astro. Et là, Michel, vous allez aborder la troisième partie de cette chronique justement et nous parler du ciel du mois.
Oui, alors comme chaque mois, je renvoie nos auditeurs vers la rubrique ciel du mois de la section astronomie de notre site web, hein, je rappelle. www.constellationsetgalaxiesaupluriel.org pour voir des cartes du ciel et plus de détails. Je la mettrai à jour pour mai, je pense, d'ici ce week-end. Depuis le passage à l'heure d'été, l'observation du ciel nocturne ne peut se faire que bien plus tard qu'en hiver. En ce moment, le soleil se couche vers 21h, la nuit arrive vers 22h15 et le ciel bien noir vers 23 heures. Cela sera environ trois quarts d'heure plus tard, fin mai, avec le coucher vers 21h40 et la nuit à 23h. Comme nous arrivons au milieu du printemps, en début de nuit, le ciel au sud est majoritairement peuplé des constellations de cette saison, même si à l'ouest, celles de l'hiver ne sont pas toutes déjà couchées. C'est notamment le cas d'Orion, bien reconnaissable à sa figure évoquant une silhouette humaine, en train de disparaître, surmonté par le cocher et les gémeaux, avec à sa gauche les deux étoiles très brillantes, Procyon et Sirius, l'étoile la plus brillante du ciel, très basse, et à sa droite l'étincelante Vénus, ainsi que Jupiter dans les gémeaux. Pour les constellations du printemps, il y a deux repères. D'abord, la figure centrale du lion, très haute au sud, située juste sous les pattes de la grande ours, qui elle est pratiquement au zénith, c'est-à-dire au-dessus de notre tête. On reconnaît le lion aux étoiles de sa crinière et de son poitrail, qui dessine une faucille, ou pour ceux qui ne connaissent pas cet outil, un point d'interrogation inversé droite-gauche. Pour trouver deux autres constellations majeures de la saison, il suffit de prolonger l'arc de la queue de la grande ours, ou la queue de la grande casserole pour ceux qui ne connaissent pas tout le dessin de la constellation. Et l'on tombe sur une étoile très brillante et légèrement jaunâtre, c'est Arcturus, la quatrième étoile la plus brillante de tout le ciel, hémisphère sud compris. Mais pour nous au nord, c'est la deuxième après Sirius. Arcturus est le montreur d'ours, car elle est censée faire avancer la grande ours devant elle. C'est l'étoile principale du Bouvier, constellation supposée diriger les bœufs tirant la charrue que les Romains voyaient à la place de la grande ours. Dans le ciel, elle a la forme d'un cornet de glace, Arcturus étant sa pointe. Si on prolonge encore plus loin l'arc de la queue de la grande ours, on trouve une autre étoile brillante, Spica, l'étoile principale de la constellation de la Vierge, qui a grosso modo la forme d'un grand Y dans le ciel. Cette Vierge n'a rien à voir avec la Sainte Vierge des chrétiens, car elle se réfère à une déesse des moissons, Cérès pour les Romains, ou Déméter dans la mythologie grecque, d'où le nom de Spica, c'est-à-dire l'épi, pour son étoile principale. La Voie lactée étant peu présente dans le ciel en cette saison, notre vision porte plus loin, et c'est une période favorable à l'observation de lointaines galaxies, notamment sous le Lion et dans la région entre la queue du Lion et la Vierge. Côté est, ce sont déjà les constellations de l'été qui apparaissent, avec le fameux triangle de l'été, formé de trois étoiles brillantes permettant de situer trois des principales constellations de l'été. Vega de la Lyre, la plus brillante, Deneb du Cygne, la plus à l'est, et Altaïr de l'Aigle, qui ne se lève en ce moment que vers 1h du matin. À la fin mai, Orion sera déjà couché en début de nuit, et le cocher et les gémeaux seront sur le point de le rejoindre. Le lion et la vierge auront déjà commencé leur descente vers l'ouest, alors que le triangle de l'été sera complètement levé à l'est. Côté planète, on ne peut pas rater la très brillante Vénus à l'ouest, pas très haute en ce moment, mais qui montera dans le ciel jour après jour, au maximum le 22, et se couche de plus en plus tard, vers 23h30 en ce moment, et ce sera après minuit en fin de mois. Pour Jupiter, un peu moins brillante, c'est le contraire. Encore assez haute dans le ciel en début de nuit, elle descend progressivement et se couche de plus en plus tôt, vers 2h30 en ce moment, avant 1h du matin fin mai. D'ailleurs, avec ces mouvements inverses, ces deux planètes se croiseront dans le ciel le 9 juin. Pour observer Jupiter dans de bonnes conditions, donc le plus haut possible, il vaut mieux le faire en début de nuit et en début de mois. Je rappelle à nos auditeurs que dans une simple paire de jumelles, on peut voir ces quatre principaux satellites, dont les positions changent en quelques dizaines de minutes. On les qualifie de galiléens, car ils ont été découverts en 1609 par Galilée, grâce à sa petite lunette astronomique, un instrument bien moins puissant et précis que nos jumelles actuelles. En fin de mois, Mercure nous reviendra dans les lueurs du crépuscule, à peu près à partir du 22. Pour Mars et Saturne, c'est le contraire, car ils nous reviennent le matin dans les lueurs de l'aube. D'abord Saturne, qui se lève un peu avant 6 heures en ce moment, puis Mars environ 10 minutes plus tard, et bien reconnaissable à sa couleur orangée. Mais comme les deux planètes se déplacent à des vitesses différentes dans le ciel, la situation restera pratiquement la même tout le mois pour Mars, basse sur l'horizon est le matin, alors que Saturne se lèvera de plus en plus tôt, 4 heures fin mai, et montera plus haut dans le ciel avant l'aube. Comme chaque mois, la Lune produira une série de conjonctions en s'approchant des planètes, en commençant par le lundi 18, où un très fin croissant se couchera avec la très brillante Vénus dans les lueurs du crépuscule. Puis le lendemain 19, il formera une belle configuration en étant presque pile entre les très brillantes Vénus et Jupiter, avant de se rapprocher de Jupiter le soir suivant, mercredi 20. Une occasion de constater la vitesse de déplacement de la Lune dans le ciel, environ la largeur d'une main bras tendue par jour. Enfin, pour être complet, je signale que le pic d'activité de l'essaim d'étoiles filantes baptisé Eta Aquaride sera dans la nuit du mardi 5 au mercredi 6, plutôt en fin de nuit, puisque l'étoile Eta du Verseau, dont elle tire leur nom car semblant provenir d'elle, ne se lève que vers 3h30. Malheureusement, la lune gibbeuse éclairera le ciel, ce qui ne permettra de voir que les étoiles filantes les plus brillantes. Je vous parle surtout de cet essaim, l'un parmi les nombreux qui se manifestent dans le ciel au fil de l'année, car il est associé à la fameuse comète de Halley. En effet, les essaims d'étoiles filantes correspondent à la traversée par la Terre d'une trace sale laissée par le passage d'une comète. Chaque petit grain rocheux, la plupart du temps de la taille d'un gros grain de sable ou d'un petit gravier, provoquant une brève traînée lumineuse en pénétrant à grande vitesse dans la haute atmosphère. Enfin, pour conclure, sauf imprévu, notre prochaine chronique devrait avoir lieu le mercredi 27 mai.
Voilà, on se retrouvera donc fin mai, sauf imprévu, comme vous venez de le préciser. Michel, un dernier mot à la fin de cette chronique.
Tout va bien. Non, ben, cet après-midi, je serai devant la télé, enfin une télé en ligne sur Internet pour voir si la fameuse fusée de SpaceX s'envole comme prévu. Et à la fin du mois, je viens de parler de notre chronique du 27 mai. On aura probablement des invités, comme d'habitude, des clubs d'astronomie de la région bordelaise, puisque un peu moins d'un mois après aura lieu l'opération annuelle qui existe depuis plusieurs années maintenant, qui s'appelle On the Moon Again, qui invite le public à venir observer la Lune avec les clubs d'astro. Donc, comme à chaque fois, ce ne serait pas vraiment utile que je parle de ce que je fais moi, loin d'ici en Dordogne. Et j'invite les clubs astronomie de la région à venir parler de leurs animations.
Très bien. Mais merci beaucoup, Michel, pour ce travail de passionné. Et on rappelle bien sûr que cette chronique astro numéro 133 va rejoindre ses petites sœurs. Voilà, j'ai pas mieux pour la métaphore, via le site constellationsetgalaxies.org.